15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo. Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout, nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, je vous présente, vous êtes médecin généraliste et ici, du lundi au vendredi, c'est de la santé des auditeurs d'Europe 1 dont nous allons prendre soin. Au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré aux phobies. Phobie des araignées, des transports, du sang, avec notre invité, le psychiatre Antoine Pellissolo. Nous verrons d'où viennent ces peurs qui nous paralysent et surtout comment les traiter. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour aujourd'hui. Il va nous parler de la goutte, cette maladie chronique qui touche les articulations. Vous verrez que ce n'est pas qu'une pathologie de la personne âgée. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien. On va parler de l'éternuement. Pourquoi on éternue? Qu'est-ce qui se passe exactement dans notre nez? On vous expliquera aussi pourquoi il vaut mieux se lâcher et ne pas hésiter à éternuer très fort. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question des bons coups, une expression souvent plutôt masculine. Vous verrez pourquoi beaucoup d'hommes s'interrogent sur leur performance sexuelle. Mais tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, on écoute la première question, c'est celle de Frédéric, 31 ans, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, j'ai lu sur internet que le gingembre était aphrodisiaque. Est-ce que c'est vrai? Merci beaucoup pour votre réponse.
Alors, le gingembre est-il aphrodisiaque, Jimmy? D'abord, un petit rappel peut-être botanique, si je puis dire. Alors, le gingembre, c'est cette racine qui est beaucoup utilisée dans la cuisine asiatique, depuis plus de 5000 ans, je crois, ou même la cuisine africaine. Et c'est de plus en plus utilisé aussi maintenant chez nous. Finalement, aujourd'hui, on en trouve partout en supermarché. Mais effectivement, dans la tradition asiatique, on prétend que c'est aphrodisiaque. Jimmy, est-ce que la science, finalement, elle confirme ça?
Alors, je vais en décevoir certains, notamment Mathieu Noël, qui en a un peu besoin apparemment. Mais je ne peux pas en dire plus, que le secret médical m'empêche d'aller plus loin. Mais aucune étude scientifique n'a réellement prouvé cette efficacité. Néanmoins, c'est que dans certaines cultures, on l'utilise. Donc, ça pourrait marcher au travers d'un effet placebo, simplement. Donc, on a l'impression que ça marche. Donc, ça marche.
L'effet placebo, parfois, ça peut marcher, effectivement. Pourquoi, dans ce gingembre, éventuellement, donc ce n'est pas prouvé scientifiquement, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dedans qui pourrait laisser penser que c'est... Donc ça pourrait augmenter le désir finalement.
Alors il y a dans le gingembre des huiles essentielles et plein d'autres choses, et notamment un composé qui s'appelle le gingerol, qui aurait des vertus vasodilatatrices et qui permettrait d'augmenter l'afflux de sang au niveau des organes et au niveau du sexe, permettant une érection peut-être un peu plus facile. Mais encore une fois, on n'est pas très sûr du mécanisme, mais si ça marche, ce serait au travers de ce petit
mécanisme physiologique. D'accord. Alors on a compris que le gingembre, donc c'est pas prouvé que ce soit aphrodisiaque, mais ça a au moins le mérite d'être bon, enfin pour moi, pour épicer les plats, je dirais. Donc rien n'empêche d'en consommer, on est d'accord.
Non, pourquoi pas. Et ça peut vous aider, notamment lorsque vous avez des nausées. L'OMS recommande de l'utiliser lorsque vous avez un mal de transport, lors des vomissements, lorsque vous êtes enceinte. Mm-hmm. Donc ça s'achète en pharmacie sous forme de gélules.
De début de grossesse. Il y a des petits bonbons au gingembre aussi.
Exactement,
pour les femmes
donc ça peut vraiment aider dans les nausées. Mal de transport, lorsque vous avez la migraine, ça peut vous aider. Lorsque vous avez une petite rhinopharyngite pour désinfecter un petit peu, pourquoi pas. Donc ça a des vertus aussi plutôt intéressantes, mais ça reste de la phytothérapie, donc une science. Donc forcément, il y a des risques.
D'accord. Et donc les risques, justement, il y en a avec certains médicaments, je crois.
Exactement, d'interactions médicamenteuses. Alors si vous mettez un peu de gingembre dans un plat, pas de problème. Ouais. Mais si vous en consommez beaucoup plus, attention, si vous avez des pathologies cardiovasculaires, du diabète, des problèmes avec une lithiase au niveau de la vésicule biliaire, à ce moment-là, demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.
Bon, une petite dose de poudre de gingembre, ça ne fera jamais rien, d'accord. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Jérôme, 44 ans. On l'écoute.
Bonjour Mélanie. Bonjour docteur Jimmy Mohamed. Ma question est de savoir si les cotons-tiges sont dangereux pour mes oreilles et mon audition. Merci.
Alors, c'est une bonne question, surtout qu'il y a eu fin août une histoire, enfin un cas qui a été un peu médiatisé d'une Australienne, je crois, qui avait l'habitude de se nettoyer les oreilles avec des cotons-tiges et qui a fini par avoir une infection énorme apparemment. Ça a fini même par lui ronger les os du crâne. Elle a dû être opérée pendant 5 heures. Enfin, ça a été quelque chose d'assez lourd. On est d'accord, ça c'est quand même un cas un peu extrême, non Jimmy?
Oui, c'est un cas extrême et qui illustre bien le fait que ça peut être dangereux. Alors oui, elle avait des petits morceaux de coton-tige coincés qui sont restés durant apparemment 5 ans. Ça a rongé l'os, vous l'avez dit, ça entraîne une ostéite. 5 heures d'opération, donc évidemment que c'est un cas extrême, mais attention, effectivement, ça peut être dangereux.
Donc on risque quoi quand on utilise des cotons-tiges? C'est ce risque infectieux-là, c'est pas rien quand même.
Alors il y en a deux. Le premier, c'est d'enfoncer le cérumen, donc la cire qu'on a dans les oreilles, et de créer un bouchon qui fait qu'on va moins bien entendre. Donc c'est le premier, mais il n'est pas très grave ce risque. Le deuxième, c'est de créer des petites lésions au niveau du conduit auditif externe. Et puis si vous avez un terrain un peu immunodéprimé et que vous continuez, que vous grattez en plus avec vos mains sales, une bactérie peut s'installer. Et là, on peut avoir une vraie infection gravissime. Ça reste rare, mais ce serait bête de l'attraper pour une histoire de coton-tige.
Oui, alors du coup, si on peut pas utiliser les cotons-tiges, d'ailleurs, les ORL les conseillent de rien du tout dans les oreilles, hein, finalement, pour les nettoyer. On se les nettoie comment, les oreilles?
Alors, c'est vrai que ça fait du bien, on aime bien mettre le coton-tige, il y a cette sensation-là. Voilà, même chez les enfants, ils aiment bien quand on nettoie les oreilles. Alors, si on veut absolument, on fait plutôt le contour, on n'enfonce pas, donc on fait un mouvement circulaire et pas un mouvement d'enfoncement. Ce qui marche bien, c'est le pommeau de douche sous la douche.
Juste
et puis,
en coup d'eau.
Si vous avez l'impression que vous avez un vrai bouchon d'oreille, prenez une seringue avec un peu d'eau chaude, sans l'aiguille, bien évidemment, et vous balancez une pression dans l'oreille, et ça vous libère de toutes ces cires, et puis vous irez mieux.
Merci, grâce à vous, on va avoir les oreilles bien nettoyées. Alors si vous aussi, comme Jérôme qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite avec le docteur Jimmy Mohamed.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler d'une maladie qui touche les articulations et qui ne concerne pas que les personnes âgées, contrairement à ce que l'on pense, la goutte. Et puis, on accueillera aussi notre invité du jour, le psychiatre Antoine Pellissolo, avec qui aujourd'hui, on parle de nos phobies. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1,
sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
De vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre nouvelle émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, avant de retrouver dans quelques minutes le psychiatre Antoine Pellissolo pour tout comprendre sur nos phobies et sur comment les soigner. C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez d'une maladie qui touche les articulations, la goutte. Alors d'abord, c'est quoi cette pathologie?
Alors la goutte, c'est lorsque l'acide urique, c'est un métabolisme qui crée des déchets en fait, s'accumule trop dans le sang, forme des cristaux, et ces cristaux vont se placer au niveau des articulations et donner ce qu'on appelle la crise de goutte.
Alors, ça touche, en général, quand on parle de la goutte, moi c'est vrai que c'est pas une maladie que je connais bien, mais j'ai l'impression que c'est que des personnes âgées.
Et non, pourtant, ça touche plutôt, alors c'est 2% de la population quand même. C'est plutôt l'homme que la femme, entre 30 et 45 ans. Mais finalement, on a d'autres facteurs, comme le surpoids, qui fait qu'on peut en avoir bien plus tôt, dès 20 ans, dès 25 ans. Donc c'est plutôt le sujet jeune qui peut en faire.
C'est marrant, parce que moi je pensais que c'était vraiment une maladie du sujet âgé, comme on dit. Comment on fait le diagnostic de la goutte, d'une crise de goutte, c'est ça?
Alors ceux qui en ont déjà eu connaissent parfaitement le diagnostic, et quand ils me consultent, ils me disent « Écoutez, docteur, je fais une crise de goutte ». Schématiquement, ça peut toucher toutes les articulations. Mais préférentiellement, c'est le gros orteil qui est touché, qui devient rouge, chaud, douloureux. Ça lance comme si on s'était...
Grossit, non?
Exactement, il devient gros. Comme si on avait pris un coup de marteau sur l'orteil, ça fait terriblement mal, mais ça peut aussi toucher d'autres articulations, les chevilles, les genoux plus rarement, ou les poignets. Mais globalement, les patients arrivent à reconnaître la crise assez facilement.
C'est souvent plutôt en tout cas dans le bas du corps, hein, en tout cas les articulations des jambes ou des pieds, d'accord. Et à quoi c'est dû? Alors finalement, l'acide urique, vous disiez, mais on a ça à cause de quoi? Il y a des facteurs de risque, par exemple?
Oui, notamment dans ce qu'on mange, lorsqu'on prend des protéines animales en trop grande quantité, ou lorsqu'on mange certains poissons, quand trop de fruits de mer, les abats. C'est très riche en purine et ça donne la crise de goutte.
Ah, d'accord.
Attention, l'alcool aussi. Si vous buvez beaucoup d'alcool, vous pouvez faire une crise de goutte. Et finalement, lorsque vous êtes en surpoids, l'obésité, parce que finalement, vous accumulez de l'acide urique. Et donc, elle s'élève dans le sang et elle peut donner une crise de goutte. Donc, évidemment que ce qu'on mange a un rôle essentiel dans le développement de cette maladie.
Alors, ça a l'air assez douloureux quand même, comme crise de goutte, cette crise de goutte. Comment on peut la soigner, rassurez-nous quand même?
Oui, déjà, il faut la prévenir. Hippocrate appelait cette maladie la maladie des rois, parce que c'était des gens qui mangeaient énormément, qui mangeaient beaucoup. Donc, surveillez votre alimentation. Rien que comme ça, on peut éviter certaines crises. Il faut prendre un traitement anti-inflammatoire, sous réserve d'absence de contre-indication. Et puis, quand les crises sont trop importantes ou trop fréquentes, on donne un traitement pour faire baisser l'acide urique au long cours. Mais dans ces cas-là, c'est un traitement qu'on garde finalement quasiment toute la vie, comme un traitement pour la tension ou le diabète.
Merci beaucoup Jimmy pour tous ces conseils. Et tout de suite, nous accueillons donc notre invité pour le dossier du jour. Aujourd'hui, on parle des phobies. Vous allez voir qu'on peut toutes les soigner, c'est une bonne nouvelle, avec notre invité, le professeur Antoine Pellissolo. Il est chef du service de psychiatrie à l'hôpital Henri Mondor de Créteil.
15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour professeur Pellissolo.
Bonjour.
Alors aujourd'hui avec vous, on va essayer de mieux comprendre les phobies. D'abord peut-être une définition quand même. Finalement, c'est quoi la différence entre une phobie et puis une simple peur? C'est à partir de quand on parle vraiment de phobie finalement?
Alors il y a un continuum, mais la phobie c'est la pathologie, donc quand il y a des problèmes en fait qui en découlent. Donc c'est une peur excessive qui n'est pas justifiée par la réalité d'un danger et qui en gros prend le contrôle de votre comportement. Vous ne faites plus les choses normalement, vous ne pensez plus normalement, à cause de la phobie.
D'accord. Jimmy?
Alors moi, j'ai peur de rien, mais je suis un peu une exception. Est-ce que tout le monde a une phobie, finalement, dans la vie?
Non, bah justement, ce n'est pas non plus 100%. On considère qu'à peu près 10% d'une population comme ça générale
c'est beaucoup, 10% quand
a pu
c'est
avoir, oui, mais alors pas forcément toute la vie. Hein, ah, ça oui. peut être, j'ai eu ça il y a 10 ans et puis c'est passé. Mm. Mais oui, c'est 10%, un peu plus les femmes que les hommes, ou même deux fois plus théoriquement les femmes que les hommes.
Oh, bah alors les femmes, c'est un cliché ça. Les femmes et sont oui. plus peureuses, quoi.
Enfin, oui, mais,
plus phobiques.
Mais il y a quand même beaucoup d'hommes, hein, puisqu'on est à peu près autour de entre 5 à 10% chez les hommes. Donc c'est pas du
et
tout.
Et on a une explication pourquoi plus les femmes que les hommes?
Non, pas vraiment, si ce n'est que comme pour tous les troubles émotionnels et anxieux, il y a sûrement un facteur culturel qui fait que chez les hommes, il y a une confrontation qui se fait plus vite avec les choses qui sont considérées comme
garçons,
pas dangereuses.
Quoi,
voilà.
Fille, ouais.
On pousse plus les garçons, c'est pas forcément pour des bonnes raisons, mais de fait, on a plus tendance à pousser les garçons et un peu moins les filles.
Oui, ne pas avoir peur, oui, ne fais pas ta petite fille, c'est vrai qu'on peut
c'est
dire ça.
Donc les filles, on les laisse avoir peur, elles ont le droit, ce sont des filles. Bon, c'est évidemment ridicule, mais c'est peut-être comme ça effectivement qu'on explique la surreprésentation dans la population féminine. Est-ce que toutes les phobies, on les soigne ou est-ce que finalement il y a certaines phobies qui passent toutes seules, quoi, en fait?
Alors, il y a beaucoup de peurs, en tout cas, qui passent toutes seules. Chez les enfants, par exemple, il y a des stades au cours desquels certains animaux, surtout, sont effrayants.
Et donc ça, c'est
tout à fait normal.
Oui,
c'est des peurs normales, développementales, comme on dit. Après, des phobies qui peuvent quand même être assez sévères peuvent disparaître effectivement aussi d'elles-mêmes en 6 mois, 1 an. Heureusement, hein, le plus souvent, on arrive à s'en débarrasser.
J'avais
tout
demandé si ça commence dans l'enfance. Justement, un petit garçon, j'en sais rien, de 3 ans, qui a très très peur des chiens, mettons, mais vraiment que ça le paralyse. Il faut le faire consulter au bout de combien de temps?
Oui, c'est plutôt mieux, parce que ça veut dire que sinon, il va avoir peur réellement souvent, parce que des chiens, il y en a beaucoup. Donc ça peut lui gâcher un petit peu la vie quotidienne. Et puis, dans le meilleur des cas, c'est sûr que ça peut passer tout seul, mais autant accélérer un peu les choses pour qu'il s'en débarrasse. Enfin, à 3 ans, c'est quand même assez rare. C'est plutôt entre 5 et 10 ans qu'il ne faut pas trop tarder, là, par contre, à essayer au moins faire une évaluation de la situation.
Alors, on n'en a pas terminé avec vous, professeur Pellissolo. On va passer notamment aux méthodes pour soigner les phobies.
Europe 1.
Dans un instant, on va donc rentrer dans le concret avec notre invité. Nous verrons qu'il y a plusieurs types de phobies et que justement, elles ne se traitent pas forcément toutes de la même façon. En tous les cas, la plupart du temps, le traitement, vous allez voir, ne passe pas par les médicaments. A tout de suite sur Europe 1.
15h, 16h. Sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre nouvelle émission Santé-Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur Antoine Pellissolo, chef du service de psychiatrie à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Alors au passage, je précise quand même le titre de votre dernier livre, Vous êtes votre meilleur psy chez Flammarion. Alors avec vous, on parle de phobie aujourd'hui, mais j'imagine qu'il y a d'abord quand même, vous nous avez expliqué la définition, entre la différence entre la peur et la phobie, mais il y a quand même dans les phobies, phobie et phobie. Il y en a des plus graves, j'imagine, que d'autres.
Oui, et puis surtout, il y a plusieurs types, en gros 3 types principaux. Des phobies assez simples, donc c'est un objet, un animal, une situation, et la peur est vraiment réflexe. Je vois la chose, j'ai peur, je sursaute, éventuellement je panique. Et puis ensuite, des phobies un peu plus complexes, il y en a 2 qui sont vraiment importantes. La phobie sociale, où là c'est la peur du regard de l'autre et du jugement de l'autre. Donc là forcément, il y a des phénomènes plus complexes d'anticipation, de jugement, enfin des choses comme ça. Et puis l'agoraphobie.
Ça c'est
là,
la dernière, la troisième catégorie.
Voilà, qui est aussi très importante parce qu'elle impacte vraiment tous les déplacements, les lieux publics, tous les endroits où on a l'impression de risquer quelque chose et d'être coincé quelque part, et parfois même une terreur, donc de ne pas pouvoir s'éloigner de chez soi, de ne pas pouvoir prendre un transport. C'est une phobie qui est très handicapante, mais comme les phobies sociales.
C'est presque la plus grave, celle-ci. Hein.
Oui, mais enfin, phobie sociale et agoraphobie peuvent être réellement très handicapantes et sont fréquentes, puisque c'est à chaque fois 2 ou 3% de la population.
Oui, quand même. Jimmy ?
Mais est-ce que ces phobies naissent dans l'enfance ? Par exemple, si on voit une araignée, on dit aux petits « Attention, attention, une araignée, surtout, va-t'en » Est-ce que plus tard, il peut finalement développer une phobie? Est-ce que ça a un impact?
Alors, on n'est jamais sûr exactement de la cause, hein, parce que c'est ça la question. Il y a un mélange de facteurs sûrement de préparation de notre cerveau à pouvoir avoir des peurs, puisque la peur est quand même une fonction très importante de la survie, et donc parfois d'être un peu exagérément phobique. Donc ça, c'est une préparation de l'espèce humaine. Et puis certains, plus que d'autres, parce qu'on n'est jamais tous égaux. Et puis après, des histoires comme ce que vous racontez, c'est-à-dire une espèce de traumatisme, alors soit un vrai traumatisme, un accident, quelqu'un qui a eu un accident de voiture, voiture va avoir plus de risques de craindre la voiture, ça paraît logique, mais et aussi tout ce qui va être appris dans l'enfance, ça peut être les parents surtout, ça peut être ce qu'on entend à la radio. Donc il y a un mélange de facteurs un peu d'apprentissage et de facteurs innée de la constitution de notre cerveau.
Parce qu'on est d'accord, alors là je reviens sur les peurs, mais la peur c'est quelque chose de naturel, c'est normal qu'on ait peur, enfant ou même adulte, c'est finalement, il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal et c'est même important d'avoir peur.
C'est indispensable face à un danger. Le problème c'est les erreurs un petit peu en gros de calibrage. Si vous avez peur d'une feuille morte dans la rue, ça va être un petit peu exagéré. Si vous avez peur des tigres qui vous sautent dessus dans un zoo et qui restent, qui sont vraiment à votre portée, évidemment ce n'est pas une phobie, ce n'est pas une pathologie. La pathologie, c'est encore une fois trop souvent, trop fort, et pour des choses qui parfois, il y a des gens qui ont des peurs d'objets qui ne sont absolument pas dangereux. Là, on a du mal à comprendre, mais des fruits, avoir peur de, je vous disais, d'un animal dont on sait très bien qu'il ne nous fera jamais rien. Même une araignée, finalement, n'est jamais dangereuse chez nous. Enfin, c'est quelque chose qui est un peu dans notre culture. C'est là qu'il y a un facteur culturel qui est important. Il y a des pays où les gens vivent avec des araignées comme des animaux de compagnie.
Jimmy ?
Et pour essayer de guérir d'une phobie, est-ce qu'il faut se confronter à sa peur ? Est-ce qu'il faudrait, vous avez peur d'une araignée, prendre une araignée sur votre main ?
Voilà, c'est vraiment ça le traitement, pour simplifier, sauf que c'est pas si simple, malheureusement. En gros, on a dit, finalement, les peurs qui se pérennisent dans le temps, c'est souvent celles qui vous empêchent de faire les choses, donc elles s'auto renforce. C'est-à-dire que moins vous allez vous confronter, plus vous allez avoir peur. C'est vraiment, en fait, quelle que soit la cause de départ, c'est ce mécanisme-là qui aggrave et qui surtout pérennise la peur. Donc le seul traitement possible, c'est effectivement de désobéir à sa peur et de petit à petit, parce qu'il ne faut pas le faire brutalement comme ça, comme vous dites, tout de suite le pire. Non, ça va plutôt à nouveau aggraver le traumatisme. Mais c'est plutôt se rapprocher de la chose, parce qu'il y a vraiment cette question de distance qui peut être importante, par étape, pour supporter ce que ça vous fait. Alors ça vous fera jamais de mal au sens d'un risque, on ne meurt pas de peur, c'est vraiment le message quand même principal, parce que c'est à la base de toutes les thérapies qu'on fait avec la peur, on n'allait jamais mourir de peur, parce que sinon les gens ont peur d'avoir peur, et c'est un cercle sans fin. Donc on va s'habituer à supporter ce que ça déclenche,
c'est la désensibilisation un peu, comme un allergie,
c'est ça ? On va se désensibiliser progressivement, parce que l'organisme, c'est quelque chose d'automatique en fait, va s'ajuster à quelque chose qui n'est pas dangereux, il va comprendre, enfin, votre cerveau va comprendre que vous pouvez regarder une araignée dans les yeux sans qu'elle vous saute dessus.
On va s'habituer. Alors, vous restez avec nous, professeur Pellissolo. On va continuer à parler des phobies et surtout, on va rentrer dans le concret des traitements. Restez avec nous, surtout.
Europe 1.
Donc, dans un instant, on va passer aux traitements, aux thérapies qui permettent de guérir des phobies. Il y a la méditation qui peut aider, vous allez voir. Et puis, on n'a pas toujours besoin, on n'a presque même jamais besoin de médicaments pour les traiter. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur Antoine Pellissolo, psychiatre avec qui aujourd'hui on parle des phobies et de leur traitement. Alors professeur Pellissolo, on a commencé tout à l'heure à parler de comment traiter ces phobies. Vous disiez aussi que ça dépendait quand même de la catégorie, de la gravité de la phobie. Mais justement, quand c'est très grave, très handicapant, par exemple quelqu'un qui a peur de sortir de chez lui ou qui ne veut plus du tout conduire, qu'est-ce qu'on fait là ? Enfin, vous allez venir avec moi dans ma voiture pour m'aider à conduire ?
Alors ça peut se traduire éventuellement comme ça, mais d'abord on fait donc une consultation avec un psychologue, un psychiatre qui va faire quand même un diagnostic et puis voir éventuellement s'il y a des causes particulières, puisque quand on a des phobies un peu complexes comme ça, c'est toujours bien de faire un petit bilan. Alors ensuite, si effectivement ça s'avère être une phobie bien identifiée, le meilleur traitement, en fait, dans la continuité de ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une forme de désensibilisation. C'est ce qui est fait dans les thérapies comportementales. Alors il y a une partie cognitive, c'est pour ça que ça s'appelle TCC, thérapie comportementale et cognitive, parce qu'on va d'abord un peu essayer d'éplucher le problème et de voir quelles sont les croyances quand même qu'il peut y avoir derrière ces peurs. Il y a des gens qui sont convaincus que telle situation ou telle même animal est réellement dangereux. Et à nouveau, ce problème de la peur, qu'on peut mourir d'étouffement, par exemple dans une crise d'angoisse ou quelque chose comme ça. Donc il faut désamorcer ces croyances avant ensuite de se confronter en étant accompagné ou en tout cas en étant dirigé, en étant coaché un petit peu. Ça peut être jusqu'à venir. C'est vrai que beaucoup de thérapeutes vont avec les patients dans le métro pour les aider au début. Après, il faut le faire tout seul parce qu'évidemment, le but, c'est d'être autonome. Hein.
Et je fais beaucoup de visites à domicile et je vois une patiente assez régulièrement qui a des pathologies très lourdes, insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire, mais qui est agoraphobe. Impossible de la faire sortir de chez elle. Dans ces cas-là, comment on fait ?
Alors, c'est vrai que le problème supplémentaire dans ces cas-là, c'est qu'il faut que les soignants viennent à domicile. Ça arrive, c'est compliqué à organiser. On peut faire des choses un peu à distance, par téléphone, avec maintenant les moyens modernes de visioconférence, enfin de visioconsultation. Mais c'est vrai que le seul moyen, c'est toujours, après avoir quand même identifié s'il n'y a pas une dépression, s'il n'y a pas une autre pathologie psychiatrique un peu plus sévère, c'est vraiment cette méthode de l'accompagnement progressif, de la confrontation progressive. Parce qu'encore une fois, cette peur qui peut être paralysante ne s'appuie sur rien. La personne personne, en plus, elle le sait très bien que ce n'est pas dangereux de sortir. Mais ça fait souvent longtemps qu'elle ne l'a pas fait, donc c'est l'inconnu total. Voilà, donc il faut vraiment reprendre les choses petit à petit. Il y a aussi l'exemple des enfants, hein, qui est important, parce que là, il y a personnes âgées aussi, mais il y a des enfants qui ne vont plus à l'école, par exemple. Les phobies scolaires qui sont un peu sur le même mode.
Et alors, vous les guérissez en combien de temps? Parce que vous dites, bon, ça va, on a compris que c'était progressif, on n'y va pas par palier, vous n'allez pas tout de suite monter dans un avion avec quelqu'un qui a une peur phobique de l'avion. Ça prend combien de temps de guérir d'une phobie? Vous les guérissez vraiment?
Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on a plutôt des bons résultats. Je ne vais pas dire 100%, il y a des cas plus compliqués que d'autres. Plus de la moitié des phobies sont vraiment bien améliorées avec ces méthodes. Ce n'est pas en quelques heures, c'est sûr, mais ce n'est pas non plus sur des années. Théoriquement, les programmes de thérapie comme ça, c'est plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Genre 6 mois maximum,
moyenne.
Quelque chose
voilà,
comme ça.
Pour,
ouais.
Bon, quand c'est vraiment sérieux, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Mais sinon, les programmes, c'est plutôt 3 mois. Enfin,
ah oui,
vous temps, voilà.
Pouvez nous promettre presque une guérison
condition...
en 2-3 mois. Quoi.
Alors, ce n'est pas moi qui vous promette, c'est vous qui allez décider de le faire aussi. Parce
ça.
Que malheureusement, si vous n'avez pas une motivation derrière,
départ,
et ça peut se travailler aussi avec le thérapeute, mais évidemment, si vous ne décidez pas réellement d'aller de l'avant, ça sera difficile de faire les choses à votre place.
Jimmy ?
J'ai des patients qui ont une peur phobique de l'aiguille, donc ce n'est pas juste la crainte de la piqûre, c'est réellement, ils font un malaise, ils attaquent de panique. Est-ce que, par exemple, la réalité virtuelle, les images en 3D, pourraient les aider à surmonter cette peur?
Oui, alors ça, c'est une méthode plus récente qui est un peu l'équivalent de la thérapie comportementale, mais d'abord un peu simulée, par simulation avec les images en 3 dimensions et notamment la réalité virtuelle.
C'est nouveau, hein, vous utilisez ça
maintenant. Oui, parce que c'est un moyen de s'immerger en se protégeant un petit peu aussi, donc c'est une première étape. Alors on peut
et
le faire avec
moins cher, parce
beaucoup
que quelqu'un qui a peur de l'avion, qui doit prendre l'avion régulièrement pour on va pas prendre l'avion à chaque fois pour essayer de se soigner.
Ouais, exactement, la voiture c'est un peu pareil, il y a des simulateurs, bon il y a des choses comme ça qui sont utiles à reproduire. Alors l'aiguille, le sang, oui aussi, c'est une phobie très importante. On peut le faire aussi facilement avec des vidéos, parce que moi j'ai plein de vidéos en fait de prise de sang où les gens vont s'habituer à supporter l'image.
Vous leur mettez direct la vidéo d'un coup là?
Alors
comme
là
ça,
aussi il faut faire par étapes.
Hein. C'est-à-dire vous commencez par quoi?
On commence par des choses assez soft et puis après on va
non mais des images un peu floues, un peu loin peut-être.
Alors ça peut être flouté effectivement parce qu'on a maintenant des moyens de modifier les images et puis on choisit effectivement quelque chose de progressif. Il y en a plein sur internet, hein, donc il y a plein de choses qu'on peut arriver à faire tout seul en se confrontant notamment à des vidéos et après en réalité parce que de toute façon le vrai
après,
traitement...
Après vous les amenez au bloc directement voir la chirurgie à cœur ouvert.
Non mais souvent ils en ont besoin parce que le motif de consultation c'est je ne peux pas faire mes examens notamment de grossesse, on a beaucoup de demandes à ce moment-là parce que jusque-là on faisait 100 et puis tout d'un coup, il faut passer aux prises de sang, parfois au scanner, il y a le problème des... Enfin, l'IRM surtout pour les claustrophobes, qui n'arrivent pas à rentrer dedans.
Même quand on ne l'est pas, moi j'en ai passé un jour, c'est très angoissant cet examen.
Ça va mieux.
C'est vrai, oui, ça va, je ne suis pas phobique. Mais par contre, vous n'utilisez jamais les médicaments pour traiter les phobies? Par exemple, j'imagine que c'est des gens quand même qui sont plutôt anxieux, pourquoi on n'utiliserait pas des anxiolytiques de manière automatique?
Parce que d'une part, tous les phobiques ne sont pas anxieux, c'est ça qui est un peu étonnant, c'est qu'on peut avoir une phobie centrée sur une situation et le reste du temps être tout à fait zen et ne pas avoir d'anxiété durable. Donc dans ce cas-là, le traitement de fond, ça ne peut pas être un médicament, parce que c'est très ponctuel. Donc les phobies en elles-mêmes ne se soignent pas, ne se modifient pas grâce à un médicament, c'est comme ça ne marche pas. Donc il ne faut pas en prendre. Au contraire, si on en prend, on commence à en apprendre trop souvent, parce que voilà, c'est une forme aussi de réassurance. Par contre, il y a deux formes un peu utiles, c'est ce qu'on appelle les attaques de panique. Quand il y a vraiment des gros malaises qui se répètent très souvent, là on peut très bien les bloquer, mais plutôt avec des antidépresseurs. Donc c'est un traitement de fond là qu'il faut justifier, parce qu'on a vraiment un trouble anxieux sévère et avec une prescription. Et puis la phobie sociale, dans laquelle probablement la peur sociale, qui est une peur constante, parce que dans la vie de tous les jours, on ne peut pas éviter le regard des gens. Donc là, par contre, c'est vraiment du matin au soir, et c'est bien ce traitement-là fonctionne bien pour limiter, pour réduire la peur sociale, mais toujours avec une thérapie, parce que c'est quand même ça qui va changer en profondeur.
Jimmy ?
Si on peut donner un conseil aux gens qui nous écoutent, qui auraient des phobies, qui ils doivent consulter ? Le psychiatre ou un psychologue peut suffire, si je peux dire ?
Alors, je pense que les deux peuvent tout à fait faire à la fois le diagnostic et la partie thérapie, psychothérapie. Souvent, les psychologues ont plus de temps. Les psychiatres, même s'ils connaissent les méthodes, et souvent, ils ont trop de travail, donc ils ne peuvent pas donner des rendez-vous réguliers. Donc souvent, c'est finalement le psychothérapeute, ça va être le psychologue. Et puis, pour les médicaments, éventuellement, ça peut être que le médecin.
Ouais,
les médecins, les médicaments, c'est un petit peu
Et encore faut-il pouvoir se permettre de payer aussi le psychologue, parce que ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Et donc,
sauf parfois... dans les centres de consultation, hôpitaux ou CMP parfois,
on
a des psychologues et on travaille par ailleurs au fait que les psychologues puissent être remboursés. Ça commence un petit peu, il y a des mutuelles qui proposent des remboursements de psychothérapie.
Merci beaucoup, professeur Antoine Pellissolo, d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on comprend mieux comment se développent nos phobies et surtout, on est rassuré. Aujourd'hui, la psychiatrie et même la psychologie peuvent nous aider à quasiment vaincre toutes les phobies. Merci encore. Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien. Et cette semaine, on s'est intéressé à l'éternuement. Pourquoi on éternue? Que se passe-t-il réellement dans vos narines? Et on va vous dire aussi pourquoi mieux vaut ne pas retenir vos éternuements. On vous dira tout. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Cette semaine, on parle de l'éternuement. Pourquoi on éternue? Et vous, vous éternuez plutôt discrètement ou alors très fort? Benjamin Lévesque, notre reporter de choc, a été vous donner la parole. On écoute son micro-trottoir.
Moi quand j'éternue, c'est toujours par deux. Une fois et après une deuxième fois. Je sais pas, c'est le matin au réveil.
C'est l'hiver et quand je suis malade. Ah si, quand je mange du chocolat parce que je suis allergique. Ça soulage.
Mon éternuement est assez discret parce que je n'aime pas justement qu'il soit bruyant. Ah, vous voulez que je mime?
Je ne peux pas rester plus de 4-5 minutes dans la rue s'il y a un plein soleil et je sais que je vais éternuer forcément.
Alors ce qui est bizarre, c'est des fois j'ai un éternuement qui a une odeur, voilà, persistante. Hein. Je ne sais pas si c'est lié à la pollution ou si c'est lié... Je sais que j'ai pas d'allergie, donc je ne sais pas ce qui peut être provoquer les éternuements.
Les acariens, par exemple, les graminées, le bouleau...
Alors moi, ils sont très bruyants. Il faut laisser l'éternuement sortir, parce que sinon c'est dangereux. On a une puissance de 160 km/h. Quand on éternue.
Il faut se libérer, sinon ça sert à rien. On est de mauvaise humeur toute la journée après.
Alors il faut se lâcher, il faut éternuer, on va voir. D'abord Jimmy, on va reprendre peut-être à la base. Pourquoi clairement on éternue en fait?
J'en ai aucune idée Mélanie.
C'est vrai.
Merci, c'est tout pour moi. Non mais je repense à cet auditeur qui disait que lorsqu'il éternue, il y a une odeur bizarre. Ouais. Lui je pense qu'il faut qu'il consulte.
Oui, là à mon avis il y a un truc dans le nez pas
ouais,
net.
Hein, à moins de laisser un kebab ou quelque chose. Franchement c'est un peu étrange comme témoignage, mais on accepte. Alors voilà. Le fait d'éternuer, c'est lorsqu'on a la muqueuse nasale qui est irritée. Ça peut être au travers d'une poussière, de certains polluants ou extérieurs, et c'est un mécanisme de défense qui fait qu'on va essayer en gros de vider. Attention, il y a au-delà de ces poussières, certaines personnes ont, lorsqu'ils s'exposent à la lumière du soleil ou à la lumière vive,
moi ça me le fait tout le temps,
ont ce qu'on appelle un réflexe photosternutatoire, et donc ils se mettent à éternuer comme
c'est
vous apparemment Mélanie.
Mais moi dès que je me mets au soleil, incroyable. Tout d'un coup pouf, j'éternue en plein été, surtout quand le soleil est assez fort, dès que je sors à l'extérieur pouf, j'éternue.
C'est cocasse, c'est un quart de la population.
Ah oui, je suis pas seule,
donc
ça
finalement
me
vous êtes pas seule Mélanie.
Ça c'est clair, un quart de la population, c'est vrai que c'est pas mal. Bon après on éternue aussi, on est d'accord Jimmy, simplement quand on est enrhumé, hein, je sais de quoi je parle en ce moment, quand on a le nez bien rempli grosso modo et qu'il faut évacuer certaines sécrétions, c'est ça?
Exactement, c'est comme les poils du nez, c'est un peu disgracieux, donc on a envie de les couper quand ça déborde.
Et là,
mais, voilà, mais quand on éternue, c'est la même chose, on essaie de vider un peu son nez.
C'est l'auto-nettoyage.
Exactement, c'est l'auto-nettoyage, ça permet d'éliminer les sécrétions et puis spontanément, on va évacuer tout ce qui pourrait irriter la muqueuse nasale. Donc c'est un vrai mécanisme de défense qu'il ne faudra surtout pas éviter.
Alors on éternue aussi, certains en parlaient dans le micro-trottoir, on éternue quand on est allergique, ça aussi je connais bien, aux acariens par exemple, voilà, je éternue tout le temps. Chez les allergiques, ça peut être des éternuements en série, là. On peut éternuer.
Exactement, lorsqu'on est exposé à certains allergènes, on libère de l'histamine et ces cellules d'histamine vont créer une réaction allergique qui vont sécréter beaucoup plus de mucus au niveau de la muqueuse nasale et être responsable notamment d'éternuements ou de nez qui coule. Donc ça peut être les acariens, le pollen, les graminées, peu importe. Mmh. Donc il y a ça aussi, en dehors du fait qu'on peut avoir ça quand on est enrhumé ou quand on est exposé à de la poussière.
Et quand on éternue, bah parfois ça sort très violemment, ce qu'il y a dans le nez, ça peut aller très vite, on est d'accord. Du coup, il faut quand même faire attention aux autres à côté, hein, c'est ça?
Oui, parce qu'il y a une phase d'inspiration active et puis d'expiration brutale, et puis on se met à éternuer, ça va très vite. Entre 50 et 100 km/h, bien plus que la vitesse à laquelle on roule dans Paris. Et attention, lorsque vous éternuez, vous libérez plein de virus, donc c'est très sale. Plus de 100 000 bactéries
ça
et virus.
Vite, ça se exactement. Comme ça,
donc évidemment, on éternue plutôt dans le coude.
Dans un
et
mouchoir.
Si on a un mouchoir, on le jette immédiatement et on se lave les mains juste après.
Je disais tout à l'heure qu'on allait donner une petite astuce à nos auditeurs. Éternuer, bon, bah, parfois on essaie de le faire discrètement quand on est en réunion, tout ça. Mais en fait, notamment les neurologues, ils disent que c'est pas une bonne idée. Faudrait éternuer très très fort. C'est même très bruyamment. C'est meilleur pour la santé. Quoi.
Oui, on avait reçu un grand spécialiste de la maladie d'Alzheimer qui a écrit un livre fantastique et qui est vraiment vraiment très très pédagogue. C'est le professeur Amouyel et qui explique que lorsque vous éternuez, si vous vous empêchez d'éternuer, eh ben finalement, ce mécanisme où on se bloque va faire que dans le cerveau on va accumuler la pression
et au niveau des artères, on bloque un flux à 50 à 100 km/h.
On bloque ce petit flux qui fait qu'au fur et à mesure, on va abîmer nos vaisseaux et au fur et à mesure, ces vaisseaux vont peut-être se déchirer et être responsables d'AVC. Donc surtout, ne vous empêchez pas d'éternuer, car sur le long terme, ça peut vraiment avoir de vraies conséquences. Donc ça paraît tout bête, mais si vous l'éternuez même en réunion, eh ben allez-y.
Super, ben on va tous éternuer très fort. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed. Europe 1. Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de l'émission. Aujourd'hui, avec notre sexologue Catherine Blanc, on va parler des bons coups, une expression souvent plutôt masculine. Vous verrez pourquoi beaucoup d'hommes s'interrogent sur leur performance sexuelle. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed, et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour à tous les deux.
Alors aujourd'hui on va parler de performance sexuelle, avec cette question que nous avons reçue de Cédric, 24 ans. Alors une question que je vais vous lire, vous allez voir, c'est bref et efficace comme question. Écoutez bien, bonjour Catherine, comment puis-je savoir si je suis un bon coup? Bon alors Catherine, on peut dire que c'est direct, hein, ça c'est clair.
Je pense que,
vous allez pouvoir répondre aussi simplement.
Voilà, il veut vraiment être dans l'efficacité jusqu'à le libellé de sa question. Alors, évidemment que la question est délicieuse, parce que qu'est-ce que ça veut dire être un bon coup? C'est une bonne adéquation entre soi et l'autre, c'est pas une bonne efficacité, c'est pas un bon technicien. Une femme n'est pas une mobilette en panne, avec une notice, et à force de la tripoter dans tous les sens, elle va pouvoir démarrer, etc. Donc, la réalité, c'est que ce sont deux humains qui se rencontrent, et il y a des associations qui sont des associations merveilleuses et qui augurent de tous les possibles, et il y a des associations de malfaiteurs. Mmh. Donc, je veux dire, c'est vraiment une question très naïve, mais qui est logique pour 24 ans, ouais. Où on cherche à être performant, à faire la preuve qu'on est, capable de rentrer dans la cour des grands.
Alors, évidemment, j'imagine qu'il n'y a pas une méthode infaillible, vous n'allez pas nous la donner aujourd'hui pour mesurer si on a un bon coup à tous les coups.
Malheureusement. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont eu moult partenaires pourront témoigner que tous les plaisirs ne sont jamais passés par le même chemin. Donc, preuve qu'il n'y a pas un seul et unique chemin, une seule et unique position ou une seule et unique caresse.
Ben justement, quand on parle de bon coup, on a l'impression que c'est une performance. Et qui dit performance dit souvent longévité. Est-ce qu'être un bon coup, c'est réussir à tenir le rapport sexuel très longtemps, des heures pour certains, ou absolument pas? On peut être un bon coup même quand ça ne dure pas très longtemps.
Bien sûr qu'on peut être un bon coup sans durer très longtemps. D'ailleurs, il y a des femmes qui s'ennuient si ça dure trop longtemps, parce qu'elles sont face à leurs difficultés ou parce qu'elles ont déjà joué une fois, deux fois, trois fois, qu'elles en ont marre. c'est quoi un bon coup? C'est une très juste question. C'est-à-dire, c'est juste un moment qui est juste. Juste entre deux personnes. Il n'y a pas de jugement extérieur. Ça n'est ni esthétique, ça n'est ni une histoire de timing, ça n'est ni une histoire de puissance de plaisir, parce que la puissance du plaisir de l'un n'est pas rejointe par le plaisir de l'autre. Donc c'est vraiment une adéquation. Je pense que toutes les femmes qui diront d'un homme que c'était un bon coup pour elles, c'est parce que justement c'était un rendez-vous qui n'était pas loupé.
Parce qu'il leur a donné du plaisir quand même, c'est ça au
moins. Mais c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous qui n'est pas loupé. Après, pas loupé, pour certaines, c'est d'avoir eu du plaisir, beaucoup de plaisir, un plaisir phénoménal. Pour d'autres, c'était un bon rendez-vous parce qu'elles ont été en tranquillité, en sécurité, en douceur, en tendresse, en amour, et qu'elles se disent que j'étais dingue, je lui ai même dit je t'aime, alors qu'elles ne le pensaient peut-être pas à ce moment-là. Preuve qu'à ce moment-là, il y avait quelque chose de juste.
Et ces questions de performance, d'ailleurs, sur je suis un bon coup ou pas, c'est plutôt masculin. Hein, c'est une on entend rarement une femme dire est-ce que je suis un bon coup? Non, enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est plutôt souci masculin.
C'est un souci masculin majoritairement, en effet, puisque, encore une fois, les hommes, on leur fait porter une dure mission, hein, qui est qu'ils doivent proposer, puis ils doivent être à la hauteur, et puis ils doivent passer outre tous les accidents et tous les obstacles entre lui et sa partenaire. Donc, de fait, l'homme a une idée d'être un chevalier, un pré-chevalier capable de toutes ces aventures quand une femme va être dans l'accueil et va décider à qui elle donnera sa rose. voilà. Donc, évidemment, c'est plus masculin, mais ceci historiquement. Ceci étant, aujourd'hui, même les femmes se revendiquent, parce qu'elles elles revendiquent des terminologies masculines, d'être un bon coup, ce qui d'ailleurs dessert souvent leur féminité.
Jimmy ?
Vous aviez dit que dans une précédente émission que les femmes connaissaient l'orgasme à partir de 40 ans globalement.
Ah ça vous l'avez retenu, hein,
majoritairement.
Je retiens bien les chiffres, tous les chiffres, Mélanie, pas que cela.
Majoritairement, bien sûr, et heureusement. Voilà, bien sûr.
Et est-ce que Cédric, du haut de ses 24 ans, il est peut-être encore un peu jeune, est-ce que les hommes aussi progressent avec le temps? Ils sont un peu plus, alors performance c'est pas bon, mais de meilleurs coups plus tard que plus jeunes?
Oui, à ceci près que bien sûr, il y a d'autres inquiétudes qui viennent avec le temps chez les hommes comme chez les femmes. Mais le fait est qu'avec le temps, ce que nous gagnons, c'est de la tranquillité. On arrête de se regarder trop. on arrête de s'évaluer sur l'autre, sur le corps de l'autre, sur les frissons de l'autre. On est plus paisible, on fait ce que l'on sait faire, on est tranquille, on n'a pas besoin de prouver. Plus on veut prouver, plus ça rend compte de notre peur, de notre inquiétude quant à nous-mêmes. Et du coup, on loupe l'autre. Et plus on mûrit, moins on est inquiet, puisqu'on sait. Et puis on sait que même si on ne bande pas, pour reprendre votre question, même si on ne bande pas, et alors, on rit, ça devient même. Il y a des moments délicieux au travers d'un véritable fiasco, et qui amène justement.
Oui, fiasco, je pense que c'est le mot adapté quand même.
Non, mais c'est.
Même
c'est,
si
c'est,
on rit.
Non, c'est délicieux, mais non, justement, ça n'a aucune importance. Si on se dit que ça doit être absolument en moins de deux, une femme doit être lubrifiée, en moins de deux, un homme doit bander, ça ne laisse même pas le plaisir à l'homme d'amener une femme à cette lubrification et à un homme, une femme, de l'amener à ce moment d'érection, même contre son gré.
Merci beaucoup Catherine, alors on a appris plein de choses, vous n'avez pas donné la recette pour savoir si on a un bon coup à tous les coups, mais déjà on a appris pas mal de choses. Voilà, c'est la fin de cette émission, demain sans rendez-vous. Dans sans rendez-vous, on parlera notamment du pénis et des normes, justement s'il y en a en termes de taille. On va répondre à plusieurs questions que peuvent se poser certains hommes sur leur intimité. Pas de sujet tabou dans cette émission, mais tout de suite on retrouve Mathieu Noël et son équipée sauvage, une équipée qu'on retrouve tous les jours avec plaisir. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Bah écoutez, oui, j'ai écouté votre émission, c'est un peu gênant comme ça d'entendre parler de moi pendant 5 minutes. Enfin bon,
évidemment.
C'était très intéressant votre sujet sur les bons coups. Effectivement, restez avec nous Mélanie, même si vous êtes fatiguée, car l'équipée sauvage arrive. Vous savez, cette grande compétition qui met aux prises les meilleurs journalistes d'Europe 1 au service de votre culture générale. On va encore apprendre plein de choses aujourd'hui, et surtout en présence d'une invitée fabuleuse, Jeanne Chéral, dont je vous conseille vraiment le nouvel album qui sort la semaine prochaine, L'An 40. Vous allez voir, on va passer un très très beau moment.
J'en suis sûre. Merci beaucoup Mathieu, bonne émission, et surtout restez sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.